Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 6 heures, temps universel. Bonjour, très content de vous accompagner dans le monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos sur la VOA, Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce vendredi 18 avril 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
En gros, ce qui nous attend ce matin, au Mali, 5 humanitaires de la Croix-Rouge libérés par des troupes françaises. En Côte d'Ivoire, des patrons de presse qualifient la suspension de leurs journaux d'abusive et arbitraire.
Le Conseil national de la presse reproche au quotidien d'avoir traité le chef de l'État, Alassane Ouattara, de dictateur dans leur récente édition.
En une à l'international, la crise en Ukraine, Américains et Européens renforceront leurs sanctions si l'accord de Genève n'est pas appliqué. Et dans la partie magazine, enquête sur le projet Ceinture Verte du Tchad.
De l'avis des autorités, ce projet commencé en 2008 devait permettre d'offrir de l'emploi aux riverains. Voici bientôt 4 mois qu'ils travaillent sans gagner de salaire. Suivons ce témoignage anonyme.
Notre difficulté là, le problème de notre salaire.
Également à venir, nos rubriques habituelles, le billet sportif et la plage musicale. Je vous le disais en titre, le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a confirmé la libération hier de 5 membres de son équipe, capturés le 8 février par le Moudjao dans le nord du Mali. Les ex-otages, tous maliens, sont en bonne santé. Henri Francisque.
Après 2 mois et 8 jours de captivité, les humanitaires du CICR, Ag Ameyed Sidi El Baka, Amical Ag Andaka, Diara Philippe, Ousmane El Ansari et Youssouf Ag Rissa ont été libérés après une intervention de la force Serval menée contre les islamistes dans la région de Tombouctou hier. C'est ce que nous rapporte notre correspondant à Gao, Boubacar Touré. Les 5 humanitaires revenaient d'une mission qui les avait conduits à Kidal lorsqu'ils ont été capturés par un groupe armé entre Anafif et Tabankort. Un enlèvement revendiqué en son temps par Yoro Abdul Salam, un arabe natif de Gao, membre du Moudjao, à la tête d'un petit groupe qui rôdait dans la zone depuis que les islamistes ont été chassés par les militaires français. De son côté, le CICR a fait savoir que 2 des 5 humanitaires étaient légèrement blessés, mais leur vie n'était pas en danger, et de rassurer que tous vont bientôt pouvoir rejoindre leur famille.
En Côte d'Ivoire, les patrons de 5 journaux suspendus depuis mardi ont dénoncé hier à Abidjan ce qu'ils appellent une décision abusive et arbitraire. Des détails avec Darina Naidou.
Dans un communiqué signé de son président Raphaël Lacpé, le Conseil national de la presse reproche au quotidien Aujourd'hui, le quotidien d'Abidjan et Le Temps d'avoir traité le chef de l'État Alassane Ouattara de dictateur dans leur récente édition. Le Conseil national de la presse leur a infligé une suspension de 2 semaines. Bol Koch, hebdomadaire satirique du Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, lui a pris 1 mois pour avoir présenté le président Ouattara avec, je cite, « des traits de visage exagérément déformés ». Quant au quotidien Soir Info, il est suspendu pour 3 paritions pour avoir publié l'interview d'un expert disant qu'on ne doit pas cesser de manger de la viande de brousse, prenant ainsi le contre-pied d'un communiqué gouvernemental interdisant sa consommation en raison de la fièvre Ebola. Lors d'une conférence de presse hier, le porte-parole des journaux suspendus a invité le Conseil national de presse à ramener la sérénité dans le milieu de la presse en rapportant, je cite, « ces décisions abusives et arbitraires ». César Etou a ajouté que ces journaux se proposaient d'entreprendre toutes les actions légales pour défendre la liberté d'opinion et de presse. Reporters sans frontières note que la Côte d'Ivoire a fait d'importants progrès en matière de liberté de la presse, mais déplore la suspension régulière de journaux de l'opposition.
La fièvre hémorragique Ebola, parlons-en justement. Le dernier bilan fourni par l'Organisation mondiale de la santé fait état de moins 135 morts depuis la propagation de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Le compte-rendu de Bagassi Koura.
Dans un communiqué publié hier jeudi, l'OMS affirme que le ministère guinéen de la Santé a rapporté un total de 122 décès. Le Libéré a signalé 13 morts. L'OMS indique que plus de 200 cas suspects ou confirmés de virus sont en observation en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. 6 cas suspects au Mali se sont révélés négatifs et aucun nouveau cas n'a été signalé. C'est la première grande épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui touche une vaste région en Afrique de l'Ouest. Le virus Ebola est très contagieux. La maladie sans remède connu pour le moment provoque des vomissements, saignements et des défaillances d'organes.
Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan a convoqué hier une réunion des chefs des services de sécurité pour examiner la situation sécuritaire dans le pays. Cela fait suite à l'enlèvement d'une centaine de jeunes filles dans la nuit de lundi à mardi dans la ville de Chibok et aux récentes attaques meurtrières à Abuja. Les auteurs sont soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram. Le président Jonathan a aussi rencontré certains gouverneurs, mais ceux du parti d'opposition All Progressive Congress ont été exclus de la réunion tenue dans la capitale, bien que certains d'entre eux représentent les régions les plus durement touchées par les récents troubles.
Le secrétaire général de l'ONU a condamné hier une attaque contre des civils et des casques bleus au Soudan du Sud. Elle a été perpétrée sur le site de la MINUS, la mission des Nations Unies à Bor, la capitale de l'État de Jonglei. Une attaque qui constitue un crime de guerre, selon Ban Ki-moon. Le site abrite près de 5000 civils déplacés. De son côté, la MINUS a fait savoir hier qu'un nombre encore inconnu de personnes ont été tuées et blessées.
L'instruction du dossier de l'affaire Abré ne peut pas être close à la date du 31 mai 2014. Il paraît indispensable de prolonger le délai initialement fixé de 8 mois au moins. C'est ce qui ressort de la première session extraordinaire du comité de pilotage des chambres africaines extraordinaires tenue hier à Dakar. Hissène Abré, ancien président du Tchad, est poursuivi pour crimes de guerre, actes de torture et crimes contre l'humanité. Et puis, élection présidentielle hier en Algérie. Sur les 6 candidats, le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, est donné favori, malgré ses ennuis de santé. Le taux de participation était de 51,7% selon le ministre de l'Intérieur, Tayeb Belaïz. En Kabylie, 70 personnes ont été blessées dans des heurts entre des gendarmes et des jeunes qui voulaient empêcher le vote. Sur ces incidents à Bouira, Mibarki Abderrahmane représente le RCD, un parti d'opposition qui avait appelé au boycott du scrutin.
Il y avait des affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre, donc la commune de Saharij, il y a notre commune de Hazar, plusieurs communes. Ils ont rejeté les élections, manifesté, ont brisé les yeux. Ils voient que ces élections ne vont pas apporter un plus, ne vont pas avoir un changement. Ils ont demandé un changement, pas de suite, ils ont demandé un changement, un départ du système. Et malheureusement, ils voient avec ces élections, c'est une forme de maintenir en place, un pouvoir en place, la marche de Paragon, de la Capiraya, à Tunisie, à Bouira, à Bidjaya et à Batwa. On a appelé un boycott sur l'élection, un boycott fasciste. On a appelé un boycott, chacun de nous reste à la maison. On ne va pas voter, c'est une décision du parti. Et on a demandé des garanties pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions, mais malheureusement, on n'a pas ces conditions, ne sont pas faites seules. On a appelé un boycott pacifique. On ne va pas aller voter.
Mibarki Abderrahmane au micro d'Idriss Fall.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pourparlers internationaux sur l'Ukraine, qui se sont tenus hier à Genève, se sont soldés par un accord lequel prévoit le désarmement des groupes armés illégaux et l'évacuation des bâtiments occupés. Le document qui a été adopté par l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne prévoit également une amnistie. Toutefois, s'exprimant depuis la Maison-Blanche hier, le président américain Barack Obama a indiqué n'avoir aucune certitude que l'accord allait être appliqué par Moscou, avant d'ajouter qu'Américains et Européens renforcerait les sanctions si aucune avancée ne se manifestait.
Ouverture hier à New York du procès d'Abu Hamza. Lors de leur première déclaration, les procureurs américains ont accusé le prêcheur islamiste d'avoir propagé le terrorisme sous couvert de religion. Abu Hamza, 55 ans, borgne et amputé des deux avant-bras, et l'ancien imam de la mosquée londonienne de Finsbury Park, était l'une des figures de proue du Londonistan de la fin des années 90. Il a plaidé non coupable et risque la réclusion à perpétuité. La défense a précisé que son client prendrait la parole durant le procès, prévu pour durée de 4 à 5 semaines.
Le nombre de sans-papiers expulsés des États-Unis a baissé presque de moitié depuis 2009. Du moins, c'est ce que rapporte le New York Times. Michel Joseph.
L'administration Obama a soumis aux tribunaux fédéraux moins de cas d'expulsion en 2013 qu'en 2009. Le New York Times publie des chiffres du département de la justice qui supervise le système fédéral chargé des questions d'immigration. Il y a eu une baisse de 26% de déportations. Ces chiffres illustrent bien un changement dans l'attitude de l'administration et de ses procureurs sur ces procédures d'expulsion d'immigrés clandestins. Selon le New York Times, les procureurs ont de plus en plus offert de suspendre la procédure contre les immigrés qui ont un casier judiciaire vierge ou de la famille aux États-Unis. De tels cas ont augmenté de plus de 400% entre 2011 et 2013. Les partisans de l'immigration exercent de fortes pressions sur le président Obama, qu'ils accusent de ne pas agir assez vite pour réformer le système actuel. Au moins 2 millions de sans-papiers ont été expulsés du pays depuis son arrivée à la Maison-Blanche.
Le bilan du naufrage d'un ferry au large de la Corée du Sud est maintenant de 25 morts. Les secours ont peu d'espoir de retrouver des survivants dans la coque retournée. Ils n'ont toujours pas pu y pénétrer en raison des courants violents et de l'eau trouble. Sur les 475 personnes à bord du bateau à destination de l'île de Jeju, 179 ont été secourus et 271 étaient toujours portés disparus à la reprise des recherches ce matin. Le président Barack Obama a présenté ses condoléances aux familles des victimes et compte leur rendre hommage au cours d'une visite en Corée du Sud la semaine prochaine.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap sur la République démocratique du Congo où le travail des enfants et la prostitution des mineurs sont déplorés dans certains sites miniers du Nord Kivu. Constat fait par des journalistes et des ONG sur place, lesquels attirent toutefois les critiques des autorités congolaises. Reportage de notre correspondant Primo Pascal Rudaigua qui revient du site minier de Rubaya.
Le site minier de Rubaya dans le territoire de Masisi est situé à proximité des villages et entouré d'un camp de déplacés. Cette promiscuité expose les enfants et les filles mineures aux travaux forcés et à la débauche. Madame Alphonsine Mapendo, chargée de genre, famille et enfants au territoire de Masisi, déplore ces pratiques.
Le problème des enfants mineurs dans des activités bizarres existe. Soit ce sont les prostituées qui utilisent ces enfants et leur cherchent des clients. C'est un sérieux problème ici à Rubaya. Il y a d'autres qui sont utilisées comme domestiques parce qu'elles sont abandonnées par leur famille et elles se retrouvent dans la prostitution à cause de l'argent. Nous sommes venus dans le cadre de la protection de l'enfance pour que nos enfants rentrent à l'école. Nous allons perdre nos enfants. Les enfants de Rubaya aiment tellement l'argent.
Le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et le droit de l'homme, Credo en sigle, appelle les services spécialisés de l'État à stopper rapidement ces fléaux. Isaac Mumbere est chargé des projets au Credo.
C'est un phénomène qui a vu le jour depuis longtemps et nous avons d'ailleurs alerté l'autorité dans une de nos réunions que voilà, il y a maintenant les formes modernes d'esclavage qui ont vu le jour dans les zones minières et ces formes modernes d'esclavage passent par non seulement la prostitution forcée, mais ça passe aussi par les pires formes de travail des enfants et voire même l'esclavage sexuel. Nous profitons encore de ces micros qui nous est tendu pour faire appel à l'autorité pour qu'elle puisse vraiment s'impliquer et voir comment lutter contre ces pratiques qui ont vu le jour, non seulement dans les zones minières et même dans les autres domaines de la vie.
Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, s'inquiète que l'image de sa province soit salie par les rapports des ONG et des journalistes.
Les hommes des médias, comme les ONG, on vous reproche d'une chose, c'est tous les ONG. Beaucoup d'ONG reçoivent d'argent de l'Europe. Les ONG locales, c'est cet argent qui les fait vivre. Et ces ONG sont dans une lutte effrénée pour n'envoyer que des messages négatifs à l'Occident. Parce que l'Occident a besoin de ces messages-là. Et elle les envoie, c'est pour vivre. Parce que si ces messages cessent d'être envoyés, on ne va plus les renvoyer d'autres financements. Et donc moi j'invite la population du Nord Kivu à davantage développer une image positive.
Il a tout de même promis que si ces informations sont confirmées, il va sévir pour ne pas disqualifier cette mine. De Goma, Primo Pascal Rudahigua, La Voix de l'Amérique.
Au Congo-Brazzaville, le paludisme tue encore des milliers d'enfants selon un rapport de l'UNICEF. Malgré les efforts des autorités visant à distribuer les moustiquaires imprégnés et à rendre gratuits les médicaments, la maladie sévit sérieusement dans les quartiers périphériques de la capitale congolaise, comme à Madibou. De Brazzaville, le reportage de Nguela Ngoussou.
Le paludisme demeure la première cause de mortalité au Congo-Brazzaville. Avec 21 000 cas de décès chaque année, les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. Le paludisme se développe essentiellement dans les quartiers périphériques de Brazzaville. À Madibou, par exemple, la situation est alarmante. À en croire les statistiques de l'hôpital de base de Makelekele, 244 hospitalisations en moyenne par mois. Docteur Obierge Kimpamboudi est responsable de la circonscription sanitaire de Madibou.
C'est préoccupant parce que les enfants continuent à mourir de paludisme, et ce qui n'est pas normal. Par jour, on peut recevoir 2, 3, 4 cas. C'est un problème réel. On a beaucoup d'herbes dans le quartier. Bon, les gens, ils déposent des poubelles n'importe où. Il faut vraiment éduquer la population pour lutter contre cette maladie. Les médicaments seuls ne suffisent pas.
Pour l'OMS, les médicaments soignent certes, mais on peut prévenir cette maladie par de bonnes pratiques. C'est pourquoi le docteur Fatoumata Diallo, représentante de l'OMS à Brazzaville, est allée elle-même parler à quelques 700 élèves de l'école de Loua.
Chers enfants, vous devez tout faire pour être en santé. Et être en santé, ce n'est pas prendre les médicaments, c'est se prévenir. Tout faire pour qu'il n'y ait pas de mouches autour de vous. Tout faire pour qu'il n'y ait pas de moustiques autour de vous. On doit se rassurer que notre petite chambre est propre. Et soyez rassurés que l'Organisation mondiale de la santé fera tout pour vous supporter.
L'État, qui a décrété la gratuité du traitement du palu pour les enfants de moins de 16 ans, s'emploie également à distribuer dans les familles et dans les maternités des moustiquaires imprégnés. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Après l'attaque de la capitale tchadienne en 2008, un projet d'encercler N'Djamena d'une muraille végétale a vu le jour. Il a été baptisé Ceinture Verte, mais sur le site de construction, les ouvriers sont mécontents car ils accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. 6 ans après son lancement, où en sont les choses avec la Ceinture Verte? Voici l'enquête de notre correspondante Tchad, François Djekombe.
La Ceinture Verte, un ambitieux projet d'un couvert végétal de 200 mètres de large qui doit encercler la capitale tchadienne sur une distance de 60 km. De l'avis des autorités, ce projet commencé en 2008 devait permettre d'offrir de l'emploi aux riverains. Ainsi, entre 600 et 700 personnes, des femmes et des hommes, sont déployés sur le terrain, les uns pour creuser des trous, d'autres pour planter des arbres, d'autres encore pour arroser ou superviser les travaux. Nous sommes allés à la rencontre de ces manœuvres sur les sites de Farcha et de Gassi, sous un soleil de plomb, ils sont là, mais accusent l'État de les brimer, car disent-ils, voici bientôt 4 mois qu'ils travaillent sans gagner de salaire. Suivons ce témoignage anonyme.
Notre difficulté là, problème de notre salaire, depuis le mois de décembre, on a gagné le 24 décembre, jusqu'à présent, on n'a pas eu l'argent. On vient chaque fois, on travaille, patienter, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas payé. Ça, c'est le 4e mois. On ne sait pas, il n'y a personne qui va nous soutenir. Et on est là, on n'a pas autre activité à faire. On vient chaque fois au travail, on finit, on rentre. Il n'y a pas autre moyen de se nourrir. Et si tu n'as pas un mari qui va te soutenir, comment tu vas vivre?
Pour cette autre manœuvre, même le minimum pour une bonne condition de travail n'est pas réuni.
Même l'appel que j'en ai, là, 1 an, les manœuvres de travail sans bottes, les épines que vous voyez partout, parce que ces essences-là, beaucoup sont les essences à épines, pas de bottes. Le salaire, là, ça, vous voyez les enfants qui sont autour, là, ces enfants qui sont envoyés de l'école à cause de non-paiement de leur inscription par leurs parents. C'est très compliqué. Et on nous apprend que le salaire est là, il y a augmentation. Depuis 2011, les enquêtes sont venues ici. Vous êtes payé combien? On dit que nous sommes payés comme ça. Ils disent non, c'est 105 000 ans. Nous, on ne connaît pas jusqu'à là. Avec les 60 000, on nous traite. Depuis la nouvelle année, on ne connaît rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Où il y a l'argent, où il n'y a pas l'argent? Pas d'informations. Les responsables même ne viennent pas nous encourager. Nous vivons du calvaire ici. Je peux dire plutôt la misère.
Le plus grave pour ces travailleurs de la Ceinture Verte, pour un même travail effectué, certains sont payés à 120 000 francs CFA le mois, d'autres à 90 000 francs CFA et la majorité à 60 000 francs qui représente le SMIG. La demande d'interview adressée au ministère de l'Environnement en charge du dossier et nos multiples relances sont restées lettres mortes. N'Djamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Les relations entre les États-Unis et la Russie se sont nettement dégradées depuis que Moscou a annexé la Crimée en Ukraine. Est-ce à dire que l'on assiste à un retour à la guerre froide? Quelques éléments de réponse avec Jean-Roger Billon.
La guerre froide a duré de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Le professeur Charles Kupchan de l'université Georgetown.
It was defined by ideological Elle était définie par la compétition idéologique, un système communiste contre un système capitaliste, un système autocratique contre un système démocratique. Elle était définie par une rivalité géopolitique traditionnelle. Dans un récent discours à Bruxelles, le président Barack Obama a replacé la situation actuelle dans son contexte. Nous n'entrons pas dans une guerre froide. Après tout, à la différence de l'Union soviétique, la Russie n'est à la tête ni d'un bloc de nations, ni d'une idéologie globale. M. Obama a par ailleurs qualifié la Russie de puissance régionale qui menace certains de ses voisins, non pas parce qu'elle est fort faible. Le professeur Kupchan est du même avis, rappelant que Moscou avait pendant la guerre froide des millions de soldats ainsi qu'une force navale de première classe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Robert Legvold de Columbia University n'est pas d'accord. Je crois que nous avons déjà une guerre froide. Ce n'est pas une vue majoritaire. Beaucoup de gens ne voulant pas penser que nous allons retomber dans quelque chose d'aussi gros, compliqué et dangereux, surtout les risques de l'holocauste nucléaire d'il y a 50 ans. Jeudi, dans une longue intervention télévisée, le président russe Vladimir Poutine s'est voulu rassurant en soulignant, je cite, « Le rideau de fer est une invention soviétique et nous n'avons pas l'intention de fermer notre pays et notre société à quiconque ». Fin de citation.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui que vous propose la VOA. Jacques Aristide avec vous. L'actualité sportive à présent et j'accueille Nicolas Pinault. Il est d'abord question de cette facture salée pour la ville de Rio.
Et ce n'est pas du football mais des Jeux Olympiques dont on parle. Ils coûteront plus de 11,5 milliards d'euros. 28 des 52 projets prévus dans le cahier des charges n'ayant pas encore fait l'objet d'appel d'offres. Le maire de Rio, Eduardo Paes, vient de présenter la facture de l'événement. Plus de 58% du total seront financés par le secteur privé et le reste par des fonds publics.
Le Brésil qui ira jouer un match amical à Pékin.
Oui, le Brésil et l'Argentine joueront un match amical le 11 octobre prochain à Pékin, comme l'ont annoncé les deux fédérations nationales. La rencontre se jouera dans le Nid d'Oiseau. Souvenez-vous, Jacques, c'est ce stade qui a accueilli les épreuves d'athlétisme lors des Jeux Olympiques d'été. C'était en 2008.
Coup dur pour le Barcelone.
Battu avant-hier soir par le Real de Madrid en finale de la Coupe du Roi 2-1, le Barça a en plus perdu Neymar et Jordi Alba sur blessure. Neymar a terminé blessé. Le joueur a subi une contusion qui a provoqué un œdème au quatrième métatarse du pied gauche. C'est ce qu'indique le club catalan sur son site internet.
Tennis, tournoi de Monte-Carlo.
Novak Djokovic a dominé Carreño Busta en 6-0, 6-1 pour accéder au quart de finale en à peine plus de 45 minutes de jeu. Un peu plus tôt, Roger Federer avait sorti Rosol 6-4, 6-1 en 57 minutes. Il rejoint Joe Wilfried Tsonga, tombeur de Fognini, 5-7, 6-3, 6-0.
Enfin, en NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Aucun match la nuit dernière avant les playoffs. C'est la première fois que Boston, New York et Los Angeles Lakers sont éliminés dès la fin de la saison régulière. L'affiche des playoffs de la conférence Est s'annonce comme le suivant. Indiana contre Atlanta, Chicago contre Washington, Toronto contre Brooklyn et enfin Miami contre le Charlotte.
L'heure de la pause musicale du matin, j'accueille Roger Muntu au programme Papa Wemba dans Blessure.
Salut Jacques, la mort de l'artiste congolais Kinkester Emenea le 13 février 2014 à Paris suscite encore des réactions dans l'univers musical africain. Papa Wemba, un des mentors de l'artiste décédé, a sorti Blessure, une chanson pour rendre hommage à celui qu'il qualifie l'un des généraux de Molokai, le patron du groupe Viva la Musica dans lequel Kinkester Emenea avait fait ses premiers pas, hein, garde toujours un bon souvenir de ce dernier.
En fait, je ne mâcherai jamais mes mots. Je l'ai accueilli à Kinshasa par le canal Benami Michamou Longo, qui l'avait repéré à Lubumbashi au campus là-bas, parce que je l'ai volé dans un groupe d'étudiants. Et mon ami Michamou Longo l'a repéré là-bas. Il est venu avec Kinshasa Emenea à Kinshasa. Et Kinshasa Emenea est venu faire partie du groupe Viva la Musica. Et c'est là où je l'ai laissé librement le couloir de s'exprimer vraiment librement. Il s'est installé, il a imposé son écriture, il a imposé sa façon de faire la musique. Nous l'avons adopté et puis par là, quand il a eu la décision d'aller faire la carrière solo, je savais qu'il allait se passer quoi. Parce que c'était un artiste vraiment, vraiment complet quoi. Je dis pas ça pour le flatter, mais je dis en connaissance de cause. Quand il est venu dans Viva la Musica, il avait un timbre vocal qui venait un peu d'ailleurs, quoi. Et il savait comment m'accompagner. Parce que j'avais eu bon nombre de chanteurs avant lui, mais personne ne savait comment m'accompagner, quoi. Et lui, quand il est venu, c'est pourquoi j'ai dit, il a imposé sa voix dans le répertoire Et vive à la musique.
Atikali kaka na mawau. Pisoli oyele kinzela matama. Etiolate oyetangi na motema. This is saki da ba pêcher et bénie. Les alite maïde et trahirie. Kanda e baleo, patama e bi poke. Pasi pasi na e.
D'autres artistes de renommée internationale, à l'instar de Ready Amici, ont quand même devancé Papa Wemba en sortant des titres exclusifs pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Papa Wemba, blessure. Merci Roger.
De rien Jacques, bonne journée.
Roger Muntou, que vous retrouvez chaque jour à 20h, temps universel, dans le RM Show.
Généraux, y'a molo caillé. Maman yonda no bakananga, chongo keba moki les alimabe. Oui, je les confirme, les mots des méchants. Source et bibi sa babo la boue. Asi piago, la beto ya bilo bela.
Avant de clore le monde aujourd'hui, un rappel des titres avec Annal Botson.
Le Comité international de la Croix-Rouge a confirmé la libération hier de 5 membres de son équipe, capturés le 8 février par le Moudjahou dans le nord du Mali. En Côte d'Ivoire, les patrons de 5 journaux suspendus depuis mardi ont dénoncé hier à Abidjan ce qu'ils appellent une décision abusive et arbitraire. Au moins 135 morts suite à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé. Élection présidentielle hier en Algérie, le taux de participation était de 51,7% selon le ministre de l'Intérieur. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, est donné favori. Et puis le président américain Barack Obama a affirmé n'avoir aucune certitude que l'accord sur l'Ukraine conclu hier sera appliqué par Moscou. Et d'ajouter que Américains et Européens renforceront les sanctions s'il n'y a aucune avancée.
Merci Anne, Anne Albertson qui a également dirigé la mise en onde. Merci aux collègues qui m'ont aidé à préparer cette édition. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Merci de votre fidélité. Très bonne journée et très bon week-end sur la VOA. Take care.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.